Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h08, vous écoutez RMC, merci beaucoup d'écouter RMC et bon courage si vous êtes sur la route ce week-end. Marion Bartoli, Fred Weiss, Ludovic Duchesne vous accompagnent parce qu'on sait que c'est pas toujours facile d'être dans les bouchons, on est bien d'accord. Les grandes gueules du sport qui vous accompagnent pendant vos vacances, même si vous travaillez aussi, hein, bon courage à vous. N'hésitez pas à retrouver le podcast des GG, notre débat de la première heure sur le Paris Saint-Germain et son comportement vis-à-vis de Donnarumma. C'était très animé, on vous le conseille. Et puis dans une heure, les GG s'intéressent à la Formule 1 ce week-end de Grand Prix. Max Verstappen qui a mis fin cette semaine aux rumeurs sur un possible départ. Il reste chez Red Bull, mais fait-il le bon choix? On sera avec la voix de la F1 sur RMC, Jean-Luc Roy. Dans 30 minutes, la punchline GG signé Tony Yoka qui était en direct sur RMC cette semaine et qui veut prouver qu'il n'est pas fini. Et vous le savez, ce moment important, dans 45 minutes, les GG contre-attaquent. Elles prennent les commandes de l'émission. Elles vont vous proposer un débat et c'est à vous de choisir sur le compte X des grandes gueules du sport. On va vous écouter pour vendre votre débat. On va commencer par toi, Marion. On t'écoute.
Alors moi, je vais vous parler de Remco Evenepoel qui va changer d'équipe de cyclisme pour partir dans la Red Bull pour tenter de gagner le Tour de France. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que Red Bull va lui permettre d'avoir le team autour de lui pour arriver à le faire gagner? Ça, c'est la grande question pour moi.
Très bien teasé. Bravo. Prends-en de la graine, Ludo. On t'écoute.
J'aime bien le débat de Marion.
Ils vont commencer à se saucer maintenant.
Ah non, c'est bon. Je préfère
les alliances secrètes. J'ai bien l'impression que les alliances secrètes.
Je préfère le mien.
Non, du tout.
Et puis c'est un débat qui va plaire à Marion aussi. Aubameyang, 36 ans, qui revient à l'Olympique de Marseille en guest star, alors qu'il était parti il y a un an libre, au plus grand regret de Pablo Longoria, son président. Marseille qui enchaîne donc les transferts, qui anime l'été et si vous comprenez quelque chose à ce que fait l'Olympique de Marseille, votez pour moi, on va en discuter.
Tu vois, t'avais bien commencé, Ludo, et puis tu finis mal.
On va parler de tout ça. Il y a beaucoup à dire sur les recrutements depuis que Pablo Longoria est président de l'OM.
Parfait. Ton débat, Fred, est-ce qu'il a choisi un débat pour perdre, comme d'habitude?
François, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'écoute les auditeurs et je sais ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un sujet léger. Les deux sujets de mes collègues sont des sujets intéressants, mais des sujets lourds. Là, les gens sont dans la voiture. Les gens ont besoin d'un sujet léger.
Et vont rigoler.
Et donc, je vais parler de NBA. La NBA est de retour à Paris en 2027 et en 2028. Et j'ai envie de poser une question simple, facile, tranquille à écouter dans sa voiture sans se prendre
la
tête.
Comme on dit.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Voilà la vraie question.
Ok, donc 3%.
On verra le résultat à la fin. Ce n'est pas nous qui votons, ce sont ceux qui nous écoutent. Allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Le résultat, allez, dans une trentaine de minutes maintenant. Mais d'abord, c'est l'heure du bras de fer des GG.
RMC, le bras de fer GG. 1, 2, 3.
Elle a 12 ans, mais elle a presque des petites joues. Elle a encore un visage poupon, on va dire, presque, mais elle a un physique assez impressionnant et assez développé, hein, ZDU.
La première fois, on a un peu peur, c'est quand on lance depuis le bord de la piscine, parce que bon, il y a 2 mètres, il descend jusqu'au fond, on se demande toujours s'il va monter.
Quoi. Oui, quatrième de cette course, elle explose encore son record personnel. C'est la fille qui revient le plus vite dans le dernier 50, égalité avec Summer McIntosh. C'est incroyable finish de cette gamine de 12 ans.
Puis la première fois, il a peut-être à peine à se tourner sur le dos, alors on voit qu'il se débat sous l'eau.
12 ans, c'est l'adolescence, mais ça reste une très jeune fille. Elle est surnommée la petite fille d'acier d'ailleurs.
On a peut-être envie de sauter dans l'eau, mais enfin, on sait qu'il y a un maître nageur, alors on se retient, quoi. On se dit, bon, il n'y a pas de risque.
On peut être très précoce en natation, on peut avoir énormément de talent, mais là, 12 ans, c'est quand même très particulier.
Donc maintenant, c'est sensationnel, quoi. On peut dire qu'il nage, mais enfin, il flotte très bien.
On se demande quand même quelle est la vie de cette petite gamine.
Moi, tu me parles pas d'âge.
Les mondiaux de natation à Singapour ont été marqués depuis une semaine par la présence d'une nageuse de 12 ans. Elle s'appelle Zidi Yu, elle est chinoise, elle a réussi de grandes performances. Quatrième de la finale du 200 mètres quatre-nages, quatrième de la finale du 200 mètres papillon. Elle a fait partie de l'équipe du relais du 4x200 nage libre qui a remporté le bronze avant-hier, même si elle n'a pas participé à la finale. Des performances qui ont surpris, voire gêné certains nageurs, vous allez l'entendre. Est-ce que vous trouvez sa présence choquante? Dans la team choquant, Ludovic Duchesne. Dans la team pas choquant, Fred Weiss, Marion Bartoli, avec des nuances quand même, je le sais.
Oui.
Avant d'entendre les grandes gueules débattre, on accueille Julia Richard et Sophie Camoun en direct de Singapour. Salut les amis.
Salut les GG.
Salut les GG. Bonjour à tous.
Salut. J'ai l'impression que je passe ma vie avec eux.
Cette semaine, c'est vrai qu'on les croise souvent hein, dans la piscine. Avant de t'entendre, Julien, parce que tu vas nous raconter comment on ressent à Singapour cette présence d'une fille de 12 ans. Sophie, juste pour nous teaser un peu, tu fais partie de quel team? Plutôt choquée, plutôt pas choquée?
Alors, moi, je vais me placer du côté de Ludovic. On va faire deux contre deux.
Voilà, il y aura un 2-2. Bravo. Il y aura un 2-2. Elle a le sens du spectacle, oui. Sophie.
Elle sait de quoi elle parle, Sophie.
En tout cas, Julien, raconte-nous comment, justement, à Singapour, cette présence d'une si jeune fille est perçue.
Alors, il y a de la curiosité, de l'incrédulité, un peu de malaise aussi, beaucoup de malaise même. Il y a un peu de tout ça. La Française Lilou Ressencourt, jeune nageuse pour la France, 22 ans, a nagé les séries du 200 mètres papillon dans la ligne à côté de la toute jeune chinoise.
12 ans. Ouais, j'essaie de pas trop me concentrer sur elle parce que ça me fait chier de me faire battre par une fille qui a 10 ans de moins que moi. Voilà, après elle est trop forte donc. Mais 12 ans, je trouve. C'est jeune, c'est. Après voilà, faut pas. Si elle fait ces temps-là par elle-même, c'est très bien et c'est incroyable. Et on repousse de plus en plus les limites de la natation. Maintenant, encore une fois, c'est jeune, quoi.
Et au-delà de toute considération qui pourrait être liée au dopage ou physique, hein, ce qui l'interpelle vraiment, c'est l'aspect mental.
Moi, j'ai 22 ans, je trouve que gérer des mondes ou gérer juste même des championnats de France, parfois, ça peut être compliqué. Alors, je me dis, à 12 ans, on a une responsabilité qui pèse et puis le regard des autres peut être compliqué. Enfin, on n'est pas... C'est pas normal à 12 ans d'avoir cette pression-là. Donc, en dehors de la spécificité physique, il y a aussi cette mentalité qui doit être... voilà, ça peut être dur à gérer. Donc, voilà.
Avec une question posée par le directeur technique de la nationale de la natation française, Denis Auguin, qui est aussi dans la tête de beaucoup de monde ici.
À quel âge elle a commencé à s'entraîner comme une adulte, en fait? C'est vraiment une enfant, en fait. Et en termes de santé mentale, en fait, d'équilibre personnel, ça me pose vraiment question, en fait. Alors, bon, c'est des cultures différentes, c'est tout ce qu'on veut, mais pour le coup, 12 ans, alors 14, 15 ans, on en a vu, mais 12 ans, comment c'est possible, quoi? Alors, il y a sans doute du talent, hein, mais c'est une enfant.
Surnommée la petite fille d'acier, on ne sait pas grand-chose hein, d'elle, si ce n'est qu'elle s'entraîne dans la province du Hebei, au sud de Pékin. Elle s'est dit très émue hier après sa médaille sur le relais. Zidiyu fêtera ses 13 ans en octobre prochain. En fait, dans les règlements de World Aquatics, la fédération internationale, il existe pourtant une limite d'âge qui est fixée à 14 ans. Mais la Chine a finalement exploité une faille dans ce règlement de la fédération internationale qui n'avait certainement pas anticipé, imaginé la possibilité, imaginer un tel cas de figure, puisqu'il existe une dérogation pour les moins de 14 ans s'ils arrivent à nager un minima B, donc un chrono qui est moins exigeant. En gros, bah, c'est comme s'il n'y avait pas de réglementation d'âge, quoi. La Fédération internationale, d'ailleurs, ici à Singapour, s'est dit prête à examiner, je cite, la situation pour faire évoluer son règlement.
Alors évidemment, on va en débattre. Je fais un point sur le sondage. Est-ce que c'est choquant ou pas? Dans la team choquant, c'est 81% pour l'instant, pour ceux qui nous suivent sur Merci. Le compte X des grandes gueules du sport. 19% pour la team pas choquant, composée donc de Fred Weiss et Marion Bartoli. Et comme le veut la tradition dans les GG, c'est à vous de vous défendre, c'est à vous d'essayer de faire gonfler ce chiffre et de convaincre. Pourquoi c'est pas choquant, Fred?
Alors c'est pas choquant. Déjà, je me suis exclu de l'équation. C'est ce qu'il faut faire. Quand on a une réflexion, il faut s'exclure de l'équation. Parce qu'en tant que papa, évidemment, moi, ça m'inquiéterait évidemment sur le principe. Mais après, j'ai réfléchi de manière plus globale. Je me dis, t'as une petite qui est passionnée par son sport, qui s'entraîne énormément, qui demande à s'entraîner et qui fait les temps qu'il faut pour être performante. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de participer à ces championnats? Qu'est-ce qui interdirait quelqu'un qui fait ce qu'il faut temps pour le faire? On a des présupposés. Oui, sa santé mentale et tout ça. On n'en sait rien du tout. On ne la connaît pas. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas l'évolution qu'elle aura. On ne sait pas comment elle est suivie. On est sur des présupposés. Présupposés aussi parce que c'est une chinoise.
Dans tous les sens.
Parce que on suppose que là-bas, il entraîne, il la torture à la limite. Mais moi, je sais que si j'avais eu le talent à 12 ans de participer à des championnats d'adultes, ben je l'aurais fait avec un énorme plaisir. J'étais passionné. Je dormais. Mais peu importe le sport. J'aurais tout fait pour le faire parce que j'avais cette passion, j'avais ce feu en moi. Et quelle frustration pour quelqu'un qui s'entraîne comme une folle parce qu'elle adore ça et qu'on lui dise ouais, tu fais des temps, mais non, reste chez toi. Mais après, je pense aussi que Ludo n'est pas un mélomane. Parce que s'il était mélomane, il penserait à Mozart, par exemple, qui a 7 ans. Lui déjà se produisait. Ça veut dire quoi?
Ah, quand moi, on a des enfants, j'ai des filles.
Mais il faut s'exclure.
Pas qu'à 12 ans,
c'est ce que je dis. Il faut s'exclure de l'équation. On ne connaît pas. Tu parles de ton point de vue, il faut parler du point de vue global. Et je reviens à Mozart, à 7 ans, quand il était dans toute l'Europe, ouais, qui faisait ses gammes du matin au soir, qui était produit comme un enfant prodige.
Jordi, non, tu veux nous parler de Jordi?
Personne. Ah, ben, si tu confonds Mozart et Jordi, effectivement, tu n'es pas un enfant prodige.
C'est le travail des enfants.
Mais il faut considérer que ces enfants prodiges existent, il faut les mettre en lumière s'ils sont capables de faire les temps, encore c'est une fois, et respecter leur amour du sport. Il faut arrêter de supposer que on les torture, on les oblige. On ne sait pas. Arrêtons un petit peu.
Moi, j'aime bien Fred. Je le dis parce que on va pouvoir penser le contraire. Mais là, ce que j'entends, c'est horrible. En fait, on parle de quelqu'un de 12 ans. Et tous les prérequis de Fred, on peut les mettre dans l'autre sens. On peut se demander comment, c'est des présupposés, on peut les mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut se demander comment, à 12 ans, elle peut avoir une telle musculature. Comment, à 12 ans, ce que dit le DTN de l'équipe de France, ça fait sens. C'est-à-dire
dans le doute, t'es coupable, toi.
Non, mais dans le doute, t'es coupable. Non, mais le doute ne peut pas profiter à une gamine de 12 ans. C'est pas possible. Ce qu'elle fait aujourd'hui, et puis tu l'as dit, elle est chinoise. Et ça, c'est pas.
Encore une fois, c'est sous prétexte qu'elle est chinoise, forcément.
Mais parce que Fred, je suis désolé de te le dire, il y a eu tellement d'exemples contraires par rapport à la Chine qu'on a le droit.
Arrêtons de regarder le cyclisme parce qu'il y a eu tellement de mal de dopage qu'ils sont tous dopés.
Et on a le devoir de se poser ces questions. Mais moi, sur sa santé mentale, ça, c'est très important, sur son développement physique, sur son équilibre, moi, je trouve qu'à 12 ans, c'est non, tout simplement.
Alors, vous allez me dire que 12, c'est pas 15, mais Cathy Ledecky, qui est encore des bassins à 28 ans,
ça n'a rien à voir.
Mais c'est 15 ans quand même. Et on était là en train de dire que c'était formidable. Hein, on a
la même chose.
Marion.
Et Kiyoko Iwasaki, c'est 14 ans. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à me faire une idée. C'est pour ça que j'ai désiré mettre des nuances et je voulais.
Oui, c'est compliqué.
C'est compliqué pour moi parce que d'un certain côté, j'entends complètement les arguments que je pense Sophie va avoir également, qui vont rejoindre ceux de Ludo, où effectivement il y a une pression à gérer qui est compliquée lorsqu'on a 12 ans. Je suis maman aussi d'une petite fille qui a 4 ans aujourd'hui, qui adore le tennis et qui veut faire du tennis, mais jusqu'à quel point je vais la mettre sur un court de tennis ou pas sur un court de tennis, quand est-ce qu'elle va commencer à faire des compétitions, tout ça, effectivement. Difficile pour moi de voir une enfant, parce que ça reste une enfant à 12 ans, qui fait des temps qui sont absolument extraordinaires, parce que le 400 mètres 4 nages, elle a quand même nagé en 4:35:53, un temps qui lui aurait permis d'être quatrième au JO de Paris, sur les championnats de Chine. Donc, je me dis qu'effectivement, les deux entraînements qu'elle doit s'avaler pour être à ses capacités pareilles à cet âge-là, j'aimerais être présente pour assister à tout ça. Mais encore une fois, on a quand même aussi très peu de données sur ce qu'elle fait. J'essaie de prendre du recul là-dessus. Non, mais j'essaye de prendre du recul là-dessus. En revanche, là où je rejoins Fred, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a des athlètes qui ont des capacités totalement hors normes, et bien évidemment, c'est très certainement son cas, si elle est en capacité d'être parmi les meilleurs, pourquoi on l'empêcherait de participer puisqu'elle est tout proche de faire un podium et elle fait une médaille sur le relais? Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à me mettre d'un côté plus de l'autre, parce que d'un certain côté, je vous rejoins totalement sur la santé mentale, sur les difficultés à gérer tout ça lorsqu'elle va grandir aussi. Alors, même si on a eu des exemples en natation, tu as parlé de Cathy Ledecky qui, effectivement, à 15 ans, était déjà une championne, ou aussi la japonaise Kiyoko Iwasaki, exactement, ou la japonaise aussi. Kiyoko Iwasaki avait 14 ans, sur la japonaise qui avait 14 ans. Donc, d'un certain côté, je me dis qu'effectivement, en attention, c'est peut-être un sport précoce. Je viens aussi vers le tennis, puisque Tracy Austin a remporté un grand chelem en étant extrêmement jeune. Elle avait 14 ans. Martina Hingis a gagné son premier grand chelem. Elle avait 16 ans, était numéro 1 mondial. Donc, on a eu ces exemples. Mais d'un autre côté, je vous rejoins sur effectivement le fait que ça reste un enfant et qu'il faut faire extrêmement attention sur les deux entraînements et la santé mentale. Mais j'ai du mal à me positionner sur ce débat.
Sophie, non, mais si j'écoute Fred ou Marion, du coup, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, on est à 12 ans et il n'y a pas de problème. Donc bientôt, à 8 ans, les Chinois vont nager et vont battre tous les records. Il n'y aura pas de problème non plus. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de règle.
T'as déjà eu une passion sportive, Ludo.
Et je pense que la natation, c'est pas le tennis, Marion. Le tennis, effectivement, à 12 ans, quand tu vois les petits as de Tarbes que j'ai déjà couvert de 12 à 14 ans, tu peux jouer au tennis déjà, mais ça n'a rien à voir avec la natation.
Oui, mais on n'est pas sur le niveau de jouer comme Yannick Sinner ou Carlos Alcaraz. On est sur un championnat du monde des moins de 14.
Rien à voir.
Sophie Camoun. parce que ouais. C'est intéressant de t'entendre. Tu disais aussi bien, que ça n'avait rien à voir, par exemple, avec Cathy Ledecky, ce cas de cette jeune chinoise. Donc voilà, éclaire-nous, non, toi qui connais parfaitement la natation.
Entre 12 et 15 ans, il y a une différence énorme. Moi, plus que encore que l'âge, c'est le cheminement pour en arriver là. C'est-à-dire que c'est une gamine qui fait du 204 nages, 404 nages, 200 papillons. Ce sont des épreuves qui sont extrêmement exigeantes et qui demandent beaucoup d'entraînement. Tu peux pas avoir ce niveau-là dans autant de courses difficiles, rivaliser avec les meilleures nageuses du monde, gérer tes courses de cette façon en revenant très fort, avoir ce physique-là, très impressionnant aussi, hein, c'est pas une gamine qui est fluette, elle a déjà des bonnes épaules. Tu peux pas faire ça sans t'entraîner deux fois par jour, tous les jours, depuis au moins deux, trois ans. Et faire de la musculation. D'ailleurs, elle dit, elle fait 10 km par jour. Elle dit 10, c'est probablement plus que ça. Elle fait de la musculation. Tu peux avoir un énorme talent. Tu ne peux pas faire ce qu'elle fait en ne nageant pas deux fois par jour et en faisant de la musculation depuis longtemps. Ça veut dire concrètement qu'elle s'entraîne 5 heures par jour dans l'eau. Elle fait des séances de musculation depuis l'âge de 9 ou 10 ans. Laure Manaudou, puisque vous parliez de Cathy Ledecky, on peut parler aussi de Laure Manaudou. Elle a commencé à nager deux fois par jour quand elle est arrivée chez Philippe Lucas, elle avait 14 ans. Cathy Ledecky, elle a commencé à nager deux fois par jour quand elle avait 13 ans. Moi, je suis désolée, nager deux fois par jour et faire de la musculation à 9-10 ans, on peut forcément imaginer les conséquences sur sa croissance, sur son organisme. Elle n'a pas encore fait sa puberté à cet âge-là. Donc, sans même parler d'épanouissement personnel et de santé mentale, tu parlais de Mozart tout à l'heure, Fred, je suis désolée, Mozart, il ne mettait pas en danger sa santé et sa puberté. Elle le fait. Et quand
les
on parle d'épanouissement.
Le font tout le temps, hein, Sophie. Hein. Les gymnastes le font tout le temps.
C'est pour ça qu'on a augmenté l'âge à 16 ans. C'est pour ça qu'on a augmenté l'âge à 16 ans, Fred. On a dû augmenter l'âge à 16 ans pour la gym chez les filles, 18 ans chez les garçons. En patinage, c'est 17 ans maintenant chez les filles, justement.
Voilà, il y a des limites.
Pour ne pas maltraiter les enfants. Et honnêtement, vous parliez d'amour du sport. Moi, je pense qu'effectivement, quand on commence deux fois l'entraînement, deux fois par jour à l'âge de 13 ou 14 ans, on a le discernement nécessaire pour savoir réellement ce qu'on veut. À 9 ans, 10 ans, oui, t'as l'amour de ton sport, oui, t'as envie de devenir une championne, mais tu sais pas ce que tu dois faire pour ça, tu connais pas le cheminement, t'écoutes ton entourage, tu suis le process qu'on met en place pour toi. Et là, cette gamine, on a mis un process en place pour elle, elle ne décide de rien. Le process qu'on a mis en place, c'est de nager 5 heures par jour et de faire de la musculation. Est-ce que c'est la vie rêvée d'une nageuse d'une gamine de 9 ou 10 ans? Est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Est-ce qu'on n'aurait pas finalement pu repousser 2 ou 3 ans cette passion et avoir les mêmes résultats et peut-être une carrière beaucoup plus longue?
Non, mais c'est là, on n'a pas la réponse.
Oui, mais vous venez de sports comme le basket et le tennis. Ce sont des sports de jeu. On joue au tennis, on joue au basket. Il y a un échange avec l'adversaire. C'est ludique. Nous, on ne joue pas avec nos potes. On ne joue pas avec nos parents non plus. On n'échange pas des balles avec nos parents. Ouais. Quand on est seul en face du fond de la piscine, 5 heures par jour. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Et
surtout, Sophie, ça rappelle les mauvais souvenirs. Si elle l'a choisi,
tu peux choisir Marion. Je crois pas que tu puisses véritablement.
Oui, mais on n'est pas en capacité d'avoir une réponse, si tu veux, à cette question aussi péremptoire. On n'est pas en capacité de pouvoir répondre à sa place.
Elle
a 12 ans actuellement. Elle n'a pas 9.
Non, mais là, Marion.
Oui, mais d'accord. Mais on n'est pas en capacité, si tu veux, de gérer ça. L'avenir nous dira ce que ça va donner
mais
sur
non,
cette
exactement. Tu sais, moi, mais je vais donner l'exemple de Chinoignier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Chinoise, puisqu'on parle de Chine, oui. et qu'il y a quand même une façon de s'entraîner là-bas qui est très particulière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite Chinoise qui, a 15 ans, Chinoignier, est devenue championne olympique à Londres en 2012. Championne olympique du 404 nage, elle a fait le dernier 100 mètres, plus rapide que Ryan Lochte, qui a gagné la course chez les hommes. Ensuite, alors elle s'entraînait, on le savait, très dur depuis l'âge de 9-10 ans, très dur, deux fois par jour, comme une adulte. Elle a ensuite disparu pendant presque 7 ans. On n'en a plus entendu parler. Il s'est passé quoi pendant ces 7 ans? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a arrêté dégoûtée parce que, pendant quelques années parce qu'on avait trop tiré sur la machine?
Et après,
est-ce qu'elle
Sophie,
a été blessée?
Elle a couru le marathon en 2 heures.
Non, mais c'est quoi l'équilibre mental d'une gamine qui est une star comme ça, en s'entraînant comme une dingue, comme une adulte à l'âge de 10-11 ans, qui devient une star dans son pays à l'âge de 15 ans
mais on peut
et
pas
qui
répondre
est ensuite
à cette
cassée
question,
pendant
Sophie.
Plusieurs années?
Sophie, on peut pas répondre
chaud,
à cette
ça,
question.
Ce que tu dis, Fred,
mais non, mais on peut pas répondre à cette question. On suppose.
Mais toi,
que,
t'es papa, tu peux pas répondre à cette question.
Mais justement, c'est pour ça. Parce que
choquée,
je m'exclus de ça.
Choquée,
je me dis que.
Mais on
un
est en train
prodige,
d'y répondre. Et on est en train d'y répondre puisque la Fédération internationale
s'en empare. C'est ce que nous disait Julien.
C'est exactement, c'est-à-dire qu'il y a un aligné. Au départ, c'est 14 ans. Oui. Il y a un alinéa, il y a une faille dans le règlement qui fait qu'on dit si la nageuse a moins de 14 ans, mais qu'elle fait un temps de standard mondial, elle peut participer au championnat du monde. Ça va être revu comme ça a été revu en gym, en patinage, parce qu'il en va pas seulement de la santé mentale, mais aussi de la santé physique de ces gamines.
Et c'est vrai.
Voilà, parce que derrière, on sait que ça s'entraîne très dur depuis.
On n'aura plus parlé.
Bon, en tout cas.
Non, mais ça, on n'a pas la réponse là-dessus. Mais Brent Novicki, de toute façon, il a dit lui-même qu'il ne pensait pas avoir un jour devoir répondre à cette question parce qu'il pensait que les minima, quand même, qui étaient demandés étaient tellement stricts qu'aucune fille de 12 ans soit en capacité de les atteindre.
Ça reste une exception.
Je suis d'accord. Et Marion, si en plus on ne peut pas faire de compétition internationale avant l'âge de 14 ans, ben on prendra peut-être plus le temps de faire grandir ces gamines et elles auront peut-être des carrières plus longues, elles seront peut-être mieux aussi. Parce que là, en plus, l'incohérence, je termine juste par ça, l'incohérence, c'est que comme elle n'a pas 14 ans, ces chronos qu'elle fait ici ne comptent pas. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas battre le record du monde junior parce qu'elle n'a pas 14 ans. Elle doit avoir entre 14 et 18 ans pour battre le record du monde junior.
Donc en plus, l'objectif, c'est de se révéler au monde entier. Non, mais l'objectif, c'est de se révéler au monde entier. L'objectif pour eux, il est au-delà.
Avec la pression que ça entraîne derrière.
Bon, effectivement, c'est un débat que la Fédération internationale va devoir se saisir de ce débat, évidemment, pour répondre parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Vous les avez entendues. Tout à l'heure, à ne pas manquer entre 13h et 15h, c'est intégral natation. Depuis le début de la semaine, c'est pour ça que.
Avec Léon Marchand.
On les entend souvent cette semaine, Julien et Sophie.
Non,
et
il y a surtout souvent,
Maxime
tous Pousset, les jours.
Cet après-midi.
Mais
en même temps, c'est
normal.
C'est l'événement. Hein.
Mais c'est merveilleux.
Sans mettre pas à penser ça, Julien.
C'est fini à partir de demain, Fred.
Grâce
à
vous allez me mentir, je ne sais pas comment je vais vivre sans ça. Vraiment, sans votre
grâce
radio incroyable, je ne sais pas.
On a appris que Fred Weiss avait un passé de nageur.
Oui. À 7 ans,
et la taille d'un sprinter.
13h43 la finale du 100 mètres pour Maxime Grousset et aussi 14h42 attention. Finale du relais 4 fois 100 nages libres mixte avec peut-être là aussi une chance de médaille pour la France. Où on retrouvera d'ailleurs Maxime Grousset entre autres.
Parfait, merci beaucoup Julien, merci Sophie, à tout
merci
à l'heure
à
13h15 sur RMC. Et puis on reparlera de natation demain dans un instant. La punchline GG signée Tony Yoka, il était l'invité d'RMC cette semaine, il a donné rendez-vous à ses détracteurs après avoir signé avec un grand promoteur. Est-ce qu'on a été injuste avec le boxeur français? C'est tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, Fred Weiss, Marion Bartoli, Ludo Duchesne ce matin. Dans un instant, il y aura les grandes gueules contre-attaque. Petit point sur vos votes. Et pour l'instant, Marion Bartoli est en tête assez largement, 55% des voix pour son. Mince, elle va gagner. Pour son débat autour d'Evenepoel qui pourrait arriver chez.
Alors les Marseillais, faut se réveiller, les gars, là.
Bah, t'es deuxième pour l'instant, 28%. Et puis Fred.
Mais parce que je t'ai dit dans ton énoncé. Tu as bien commencé, Ludo, et puis après, avec ta dernière phrase, t'as tout gâché. C'était sûr que t'allais perdre.
Vous pouvez encore voter. Oui. Dans 10 minutes, ça sera les grandes gueules contre-attaque. Mais d'abord, c'est l'heure de la punchline GG, signé Tony Yoka. Il s'était en direct sur RMC cette semaine.
RMC, la punchline GG.
Je suis beaucoup plus apaisé parce que, au final, moi, j'ai des attentes pour moi-même, pour ma famille. Et en vrai, ce que les gens attendent de moi, je retiens que le positif. Dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas. Je me souviens quand j'ai perdu en 2012 aux Jeux Olympiques, on a dit Tony, il est fini. Au final, je fais champion du monde, champion olympique derrière. Et voilà, là, j'ai perdu quelques combats. On dit qu'il est fini. Écoutez, je vous invite à regarder mes prochains combats. Là, aujourd'hui, je vais être mis face à des top adversaires. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y être. Pour un poids lourd, j'arrive à, on va dire, au prime de ma carrière. Les 5 prochaines années, ça va être des meilleures années de ma carrière.
Tony Yoka, donc en direct cette semaine dans l'Intégral Sport sur RMC, souvent critiqué. Il semble avoir retrouvé l'envie de combattre. On va en parler, mais d'abord, répondez à cette question, les GG. Est-ce qu'on a été injuste avec Tony Yoka? Oui ou non? Mario Bartoli.
Alors non, pas du tout.
Fred Weiss.
Non.
Ludo Duchesne.
Ouais, je ne fais pas exprès, mais oui.
Avant de vous entendre, on va accueillir Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour Marion, bonjour les GG, bonjour à tous.
Salut Morgane.
Tony Yoka a donc annoncé cette semaine avoir signé avec un important promoteur anglais.
Oui, Yoka rejoint Queensberry Promotion, l'un des deux plus gros promoteurs anglais avec Matchroom de Eddie Hearn. Queensberry, c'est Frank Warren, 40 ans d'organisation de grands combats. Le meilleur choix à ce moment de ma carrière, se justifie le boxeur français. Il y a une trentaine de champions en activité, un cheptel de poids lourds impressionnant chez Queensberry, Daniel Dubois, Tyson Fury, Joseph Parker. Ils sont 13 poids lourds mieux classés que Yoka dans l'écurie de Frank Warren. Facile de lui trouver un adversaire. Il a expliqué au micro de l'Intégral Sport sur RMC.
Oui, on est dans la même écurie et on sait que Frank Warren, il aime faire boxer entre ses propres boxeurs. C'est plus simple pour lui. Il n'y a pas de négociation à faire avec d'autres promoteurs. Et nous, ça nous permet de boxer assez régulièrement. Quand on voit les boxeurs qu'il a, ils sont très actifs.
Dans une interview à Boxing Scene, Frank Warren évoque plusieurs noms pour affronter Yoka. Il cite l'Allemand Agit Kabayel, deuxième sur Boxrec, le classement mondial via un algorithme. Daniel Dubois aussi pour relancer le partenaire d'entraînement de Yoka après son revers face à Usyk. Dillian White, Moises Itoma, l'anglais qui monte. Et peut-être le nom le plus évident, Joe Joyce, battu par Yoka en finale des Jeux Olympiques 2016. Une autre rumeur est sortie de la bouche d'un ancien champion d'Europe sur le plateau de Talksport. Yoka fait partie d'une liste de noms pour affronter Anthony Joshua. Joshua, 35 ans, qui est un grand nom malgré plusieurs revers. Yoka, Joshua, le champion olympique 2016 contre le champion olympique 2012. Une telle affiche aurait lieu dans un stade en Angleterre ou dans une grande réunion saoudienne. Et forcément, Yoka n'est pas insensible à cette idée.
C'est sûr que ce serait très très intéressant. Moi aussi, j'ai vu ces rumeurs-là. Écoutez, moi, je laisse mon équipe en discuter. Et puis, reviendra vers moi quand il y aura quelque chose de sérieux à signer. En tout cas, c'est sûr que ce combat serait un très très bon combat pour moi. Il y a une histoire derrière, il y a deux champions olympiques. Moi qui, aujourd'hui, essaie de revenir sur la scène internationale, je crois qu'il a subi des lourdes défaites et qu'il aimerait se relancer. Donc voilà, ce serait quelque chose qui aurait du sens. Ça fait 2 ans que je me suis retiré des médias, etc., que je me suis vraiment renfermé sur moi-même pour revenir à niveau, tout simplement, d'abord mentalement, ensuite physiquement. Et puis voilà, maintenant, je suis prêt à step up, comme on dit.
Franck Warren assure qu'il sera derrière Yoka avec le diffuseur DAZN. Le Français lui aimerait reboxer avant la fin de l'année.
Merci beaucoup Morgane, tu peux rester avec nous et arbitrer ce débat qu'il va y avoir, puisque pour toi Marion, on n'a pas été injuste avec Tony Yoka.
Mais pas du tout, on n'a pas été injuste parce qu'au vu de ses résultats, il n'a pas été capable, malheureusement. Et encore une fois, c'est vraiment pas ce que, bien évidemment, on souhaite à un sportif français. On avait envie qu'il réussisse, on avait envie que cette histoire créée avec Canal+ réussisse, on avait envie de le voir monter en catégorie, de rentrer dans le top 10 des poids lourds au monde. Et force est de constater que, malheureusement, pour l'instant, alors même si ça va mieux puisqu'il reste sur 3 victoires d'affilée, dont notamment la dernière contre le numéro 1 russe Arslan Yaliev, force est de constater que c'est pas Usyk, c'est pas Fury, c'est pas Deontay Wilder. C'est pas Joe Joyce, c'est pas Jared Anderson, c'est pas Philippe Rakovic, c'est pas François Sanchez, et je pourrais continuer la liste. Ça a été dit par dans le sujet d'ailleurs, il a 13 poids lourds aujourd'hui qui sont devant lui, simplement sur ce promoteur-là avec lequel il a signé. Donc malheureusement, encore une fois, Tony Yoka n'a pas été en mesure, après son titre olympique, de réellement avoir les résultats sur lesquels on pensait qu'il pouvait obtenir ce genre de résultats après ce titre olympique. Et ça, c'est une réalité. Alors, on lui souhaite bien évidemment de reprendre le cours de sa carrière de la meilleure manière possible. On lui souhaite de remporter des grands combats. On lui souhaite de faire ce combat contre Joshua parce que ça sera une très belle vitrine médiatique pour lui. On lui souhaite de le remporter même si Joshua, effectivement, a perdu pas mal de combats et il a subi de lourdes défaites assez récemment. Donc, lui aussi essaye de se relancer. Ça sera pas non plus battre Usyk. Faut pas se réentendre. Joshua n'est plus au même niveau qu'il a été auparavant. Mais ça restera une victoire de prestige. Donc, tout ça, bien sûr qu'on lui souhaite. On n'est pas là pour faire du Tony Yoka bashing. Mais en revanche, il faut quand même être réaliste par rapport aux résultats qu'il a obtenus jusqu'à maintenant. Et non, il n'a pas rempli les attentes qu'on avait en lui. Ça, c'est une réalité qui est incontestable, à mon avis.
Ludo, toi, tu n'es pas d'accord avec Marion ?
Non, comme d'habitude. Mais non.
Le principe
par
de l'édition.
Par principe. Ouais. Non, mais moi, je pense que Tony Yoka est un grand champion. Il a été champion olympique, je voudrais quand même juste le redire, parce que évidemment qu'il a connu des défaites, mais s'il y a bien un sport où tu ne peux jamais tirer de conclusion, c'est la boxe. Parce que demain, s'il rencontre Joshua en fin d'année, comme c'est la rumeur, comme nous a dit Morgan, et qu'il le bat, il est totalement relancé, et après, il peut encore monter un peu plus haut.
Oui, mais lui, t'as le droit de faire un constat.
Est-ce qu'il en a les qualités? La réponse est oui. Il a été champion du monde amateur. Je pense que c'est un vrai champion. Je pense qu'il a vécu pour une expression à la Fred, des up and down. Donc, mais comme tout champion.
Tu vois, il a utilisé une expression qu'il n'a pas compris. Hein.
Comme tout champion. Donc, je pense que.
Non, mais on est d'accord que la ceinture WBA, il n'a pas la ceinture WBO, oui, mais... il n'a pas la ceinture WBC, il n'a pas. Donc, moi, je veux bien qu'on crée des histoires sur un championnat olympique amateur.
Ça ressemblait un peu à ça, Marion, quand même, pendant une période.
Non, on est réaliste sur les résultats.
Non, mais parce qu'il y a eu un storytelling, pour reprendre encore un mot que Fred va aimer. Il y a eu toute une histoire construite autour de Tony Yoka qui, à mon avis, ne l'a pas servi. Et notamment ses premiers combats sur Canal.
Mais c'est pas un peu de sa faute, un peu, Ludo? Ludo, la question, en fait, peut-être que c'est du bashing et je peux l'entendre, mais est-ce que c'est pas un peu de sa faute? Lui-même a reconnu qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Il lui-même a reconnu qu'il était peut-être pas très bien entouré à l'époque et qu'il n'avait pas fait les choses qu'il fallait.
Il a tout changé, je crois.
Et donc,
Morgan nous le dira, mais je pense qu'il a tout changé, son encadrement.
Moi, je suis entre les deux. Moi, je suis entre les deux par rapport à vous. Donc, d'un côté, je pense qu'on a eu raison parce qu'à l'instant T, le constat était assez clair et Marion l'a très bien expliqué. J'ai pas envie de revenir dessus, mais à l'instant T où il a eu du bashing, c'était normal parce que il suscitait beaucoup d'attentes. et quand tu réponds pas aux attentes, c'est normal qu'on se s'en plaigne. C'est logique.
Pourquoi Fred? Parce que ses premiers combats, c'était contre des gars que toi-même t'aurais battu peut-être.
Oui, donc, mais,
c'est,
mais...
Vrai, c'est aussi pour ça qu'on s'est moqué de lui à un moment donné.
Mais c'est logique.
Il faut voir d'où il sort. Mais et
c'est
d'où
la réalité.
Vient. C'est quand même un immense champion. Et moi, quand je l'entends là, bah, j'ai envie d'y croire. Le gars,
il a tous envie d'y croire.
Et le combat dont parlait Marion l'année dernière contre le Russe qui était invaincu, je pense c'est une première étape. Et moi, je pense qu'il est capable de très très grandes choses.
On l'a entendu également. Il vient déjà changer des choses.
Et il reste champion olympique, ce qui n'est quand même pas rien dans une carrière. Et c'est notre meilleure chance. Voilà, on n'en a pas 50 en France. Et il y a beaucoup d'attentes.
Ludo, tu réponds à une autre question. La question, exactement, c'était est-ce qu'on a été trop dur avec lui? Non, on n'a pas été trop dur. Non. C'est ce qu'il méritait à cette époque-là. Sauf que, peut-être que ça lui a fait du bien. Et au contraire, on souhaite que ça lui ait fait du bien. On l'a vu. Il était, sur son dernier combat, il était plus massif. On le voit plus serein. On le voit plus heureux.
Il a 122 kilos, là.
Et il n'a que 33 ans. Donc on se dit que pourquoi pas. Et on a envie d'y croire.
Il a 17 combats, regardez, ce qui est pas énorme non plus.
Mais surtout 33 ans, c'est pas énorme.
Non, en tant que poids lourd.
Donc il peut revenir, sauf que si on doit dire si on a été trop dur, non, parce que c'est le constat et c'est en gros s'il avait eu une note, c'est la note qu'il méritait à cette époque-là. Maintenant, à voir si cette note n'augmente pas et on le souhaite tous.
Oui, injuste, voilà, c'était la question. Et effectivement,
non, c'est mérité.
Quand on entend quand même la punchline du jour, on sent qu'il est revanchard. Là, il y a quand même une question de revanche aussi.
Oui, mais bon, il a été aussi. Moi, là où je le trouve, je trouve qu'il a été intelligent dans sa démarche, c'est qu'à un moment donné, il a su aussi se remettre en question. Et il le dit notamment dans cet entretien qui est très intéressant sur RMC, c'est qu'il a reconnu que la défaite la plus compliquée pour lui, c'était face à Barcolé, où là, derrière, il y a une espèce de remise en question, où il a compris qu'il fallait vraiment qu'il reparte de zéro quasiment, et qu'il fallait remettre tout en question et tout sur la table. Il s'est exilé à Londres et il a fait quasiment aucun média pendant 2 ans. Il a compris qu'il aurait jamais le jeu de jambe de Usyk, qu'il fallait qu'il prenne du poids. Il a pris beaucoup de muscles. Et voilà, cette catégorie poids lourd, il a fallu aussi qu'il l'appréhende. Moi, encore une fois, je lui souhaite tout le bonheur du monde et je souhaite vraiment qu'il réussisse.
Moi, je crois à cette rédemption.
Est-ce qu'on a été injuste à un moment
aussi.
Exactement. Injuste à un moment donné.
Après,
non. Dans la vie d'un sportif, il faut accepter les critiques et ces critiques, à un moment donné, lorsqu'il a perdu ses combats, elles étaient justifiées. Ouais. En revanche, s'il gagne, je serai la première à l'applaudir, je serai la première à être contente pour lui.
Et en boxe, t'as plusieurs ceintures, donc aussi, la seule référence, Marion, elle prend toujours Usyk, mais Usyk, c'est le champion des champions. On peut pas toujours prendre la référence.
Non, mais Dubois, c'est lui qui a la ceinture IBF, hein.
Oui, mais il vient d'être battu, là, Dubois. Donc tu peux pas toujours prendre la référence. C'est comme en tennis, si ta seule référence, c'était Federer, je comprends que les
mousquetaires. Ah non, la référence
français,
ultime en tennis, c'est Djokovic,
c'est
pas Federer.
Nadal, mais à un moment donné,
c'est simplement nombre de titres de Grand Chelem, là, je veux dire, il y a pas de débat. La référence ultime en tennis, c'est Djokovic à 24 Grand Chelem.
D'accord, mais c'est si Federer, c'est ta seule référence, je comprends que les joueurs français
avec moi,
complexe.
Je serais plus d'accord, parce que moi, c'est Michael Jordan au basket, ça va?
Voilà. Kobe Bryant, non, pas Jordan, d'accord.
Non, mais bon. Le juge de paix, pour répondre à ta question, le juge de paix en tennis, c'est gagner un tournoi du Grand Chelem. Tu peux me tourner le truc à l'endroit, à l'envers, comme tu veux, c'est ça le juge de paix. Après, il y en a qui en gagnent 24, il y en a qui en gagnent 22 comme Rafa, il y en a qui en gagnent 20 comme Roger, mais il faut déjà au moins en gagner un. Et ça, c'est le juge de paix incontesté.
Bon, on va suivre évidemment avec toi, Morgane, la suite du parcours de Tony Yoka, et on l'a entendu. Tony Yoka, il a l'air en forme et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. On l'a bien compris. Là, on est d'accord avec ça. Merci beaucoup, Morgane.
Oui. Bye bye.
À très bientôt dans les grandes
gueules
du sport.
Morgane.
Vous restez avec nous parce que dans un instant, les GG contre-attaquent. Elles prennent le pouvoir dans cette émission. Peut-être déjà un peu le cas, hein, vous l'avez compris. Vous avez encore quelques minutes seulement pour voter pour votre débat préféré. Allez-y. Qui est votre préféré, là? Ludo?
Et l'heure
Fred,
de se lever, les Marseillais, là.
Ou Marion, à vous de voter. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h48 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport. Merci beaucoup de nous écouter, Fred Weiss, Marion Bartoli, Ludo Duchesne ce matin. Dans un instant, on retrouvera Jean-Luc Roy, la voix de la F1 sur RMC. Pour parler de Max Verstappen,
oui.
Là ça te plaît moins hein, qu'on parle de Max Verstappen. Le Hollandais qui va rester chez Red Bull. Est-ce qu'il fait le bon choix? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Mais d'abord à cette heure-ci, les GG prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les GG qui vous ont proposé un débat et c'est vous qui avez choisi votre débat préféré. Le résultat, troisième et dernier, mais troisième quand même sur le podium. 18%.
Sur 3, c'est pas mal.
Ah, c'est mieux que 3%.
C'est bien,
hein.
Bravo.
18%. T'as fait
x6. Pour ton débat autour de la NBA.
Vous n'espériez pas tant, hein, c'est ça?
Ouais.
Oui.
Mais bon, t'as encore gagné finalement, puisque toi, ton but, c'est de perdre.
Oui, exactement.
Voilà. Réfléchissez.
Et je suis meilleur à ça.
Deuxième, et là, c'est un événement. Événement dans les grandes gueules du sport. Pour la première fois, il perd un débat. Ludo Duchesne, avec son débat sur l'OM.
J'ai voulu faire confiance aux Marseillais. Ouais, non, mais j'ai voulu tenter un truc avec Marseille. Ouais. Voilà, on peut pas.
Tu t'es pourtant bien battu, hein, 29%. T'as grappillé, grappillé. Je pense que si ça restait une heure de plus.
Pourtant, Marion aurait pu m'aider, parce qu'elle-même soutient l'Olympique de Marseille.
Non, mais Marion, elle a gagné. Elle a gagné. Bravo,
bravo
Marion.
Bravo, bravo.
Ton débat autour d'Evenepoel, chez Red Bull. Alors, c'est pas encore officiel, mais ça s'est pressenti, en tout cas, 53% pour ce débat autour d'Evenepoel chez Red Bull pour tenter peut-être de gagner le Tour de France. C'est ça que tu voulais nous dire, Marion.
Exactement. Alors, c'est le transfert majeur de l'intersaison 2025-2026, les amis. Le transfert de Remco Evenepoel, le champion belge de la Soudal Quickstep, pour rejoindre la Red Bull Bora Hansgrohe. J'espère que je le dis correctement.
C'est ça.
Alors, pendant de longues années, ce qui est intéressant, c'est que la formation belge, donc la Soudal Quickstep, était vraiment spécialisée dans les classiques, un domaine où elle régnait en maître dans le sillage, bien sûr, de Tom Boonen, de Philippe Gilbert ou encore de Julien Alaphilippe. Et puis, il y a eu l'émergence de Remco Evenepoel qui a déplacé le centre de gravité de l'équipe, puisque pour Patrick Lefebvre, il tenait désormais sous sa main un coureur capable de gagner le Tour de France. Donc, l'accent a été mis sur les courses à étapes. Il y a eu le recrutement de Mikel Landa, ou plus récemment celui de Valentin Paré-Peintre, qui allait dans ce sens justement pour aider Remco à aller remporter ce Tour de France. Et ce qui est intéressant pour moi dans ce débat, et j'aimerais avoir votre avis, c'est que finalement Remco a décidé que c'était pas forcément la meilleure formation pour lui pour aller remporter ce titre et remporter ce Tour de France, avec bien évidemment Pogacar qui sera avec Vingegaard, ses deux plus grands rivaux. Et donc il a décidé de signer du côté de Red Bull. Est-ce que il prend la bonne décision? Est-ce que cette équipe de Red Bull va lui permettre de vraiment réaliser ses ambitions? C'est la grande question. Alors bien sûr, on en saura plus lors du Tour de France de l'année prochaine. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, puis avoir bien évidemment l'avis de nos auditeurs. Ils sont passionnés par le cyclisme, donc n'hésitez pas à appeler le 32-16 également. Mais pour moi, c'est le coup majeur là, du mercato du cyclisme. Bah, écoute, j'ai deux ans d'émission quand même.
Et en plus, là, c'est le principe de cette séquence.
Donc,
t'as raison. Voilà. Mais moi, je te laisse. Voilà, maintenant, je te laisse l'émission. Je vais rentrer faire dodo. Non, je vous laisse répondre, réagir à ça.
Je me rappelle plus la question, en fait.
Non, mais sur
est-ce qu'il a fait le bon choix de partir chez Red Bull?
Super débat.
C'est vrai que c'est intéressant.
Après,
il y a une question financière. Red Bull, c'est une équipe qui a beaucoup de moyens.
Il n'y aura pas de souci.
Et puis, ils ont des ailes en plus.
Très bien.
Par exemple, merci.
Le problème, c'est qu'il va rejoindre une équipe où il y a déjà Lipovic qui vient de finir sur le podium du Tour de France. Moi, je pense que le problème de Remco, c'est pas l'équipe, même si évidemment il n'était pas très bien entouré cette année et que.
Mais là, il a abandonné.
Il a abandonné, donc c'était, je pense, il était dans une année sans. Mais le problème de Remco, c'est.
Il était quand même troisième au général quand il a abandonné.
Absolument. Mais il aurait peut-être même fini troisième ou derrière Lipovic. Mais le problème de Remco, c'est Vingegaard et Pogacar. Et que même s'il change d'équipe, ça restera son problème en montagne, puisqu'on sait que même s'il a gagné la Vuelta, on sait que dans la très haute montagne, il est toujours derrière.
Il a progressé aussi. On a vu des coureurs progresser.
Ouais, mais cette année,
t'as deux monstres devant. À un moment,
Maintenant, il y a deux étages. Il y a un étage avec Pogacar, il y a un deuxième étage un petit peu plus bas avec Vingegaard. Et il y a un troisième étage où il y a les autres. Et dans les autres, il est le meilleur. Il était, parce qu'attention, avec Lipovic et sa performance de cette année, c'est encore un jeune coureur qui vient du biathlon, un parcours totalement atypique. Lui, il doit penser que c'est...
Remco, c'est quand même un des coureurs les plus complets du peloton. Hein. C'est quand même un coureur qui était champion olympique sur route et sur le contre-la-montre, champion du monde du chrono, vainqueur de la Vuelta en 2022. C'est un coureur avec des capacités qui sont énormes. Mais ce qui va être très intéressant, puisque finalement, Red Bull est rentré depuis peu de temps en tant que sponsor principal, puisqu'ils y sont depuis 2024. Ils ont des moyens effectivement considérables. Est-ce qu'ils vont être capables de l'aider dans sa préparation, de l'aider avec l'équipe qu'il y a autour pour aller réellement réaliser ses ambitions? Parce qu'ils prennent quand même un coureur qui a déjà gagné beaucoup de choses. Ça serait un deal sur plusieurs années.
Faudra voir s'il
certainement
garde
jusqu'en 2028.
Le nouveau directeur sportif, c'est un pote à lui. Donc ça peut aussi faciliter des choses. Peut-être.
Il y a Primoz Roglic, il y a Florian Lipovic dans l'équipe.
Ça peut faire une belle armada quand même. L'avant, le point fort de
Remco, moi j'aime bien ce coureur aussi parce qu'en fait il tente des choses. Là, il sent que chez la Soudal, il n'y arrivera pas. Il n'a pas l'équipe autour. Cette année, il y avait Tim Merlier.
Il jouait aussi pour
moitié sprinter, moitié classement général. On sait que maintenant sur le Tour, il faut une équipe dédiée à un futur vainqueur ou pas. Mais
c'est
il tente des choses.
C'est peut-être la promesse qu'on lui a faite d'ailleurs.
Oui, pour il va chez Bora. C'est un énorme pari. Il va retrouver Lipovic. Est-ce qu'il finira devant Lipovic? Qui sera leader? Ou peut-être qu'on va mettre Lipovic sur le Giro. En tout cas, je sais pas comment ils s'organiseront.
Après, s'il va pour pas être leader, c'est chaud quand même. Hein.
Ce qui est intéressant aussi, et Marc Madiot le dit souvent, d'ailleurs notre ami Marc, on salue, c'est qu'il y a des différences de budget qui sont quand même énormes entre bien les sûr. Équipes et qu'aujourd'hui, d'essayer de réaliser avec les géants que sont Ineos, que sont le UAE Team, que sont la Visma, sur le plan financier, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de mettre autant de moyens sur la nutrition, sur l'entraînement, sur plein de choses. On va le voir dans le dossier de la nutrition tout à l'heure. Mais toutes les équipes ne luttent pas à armes égales. Donc je pense que pour Remco Evenepoel, effectivement, d'entamer ce changement, parce que je pense qu'il y a une frustration aussi en termes de limitation par rapport à ce que son équipe de la Soudal est capable de lui offrir au vu du budget que la Soudal a, ça me paraît un événement très important dans le milieu du cyclisme et qui sera fascinant de suivre.
On a vraiment hâte de voir ça. C'est vrai que c'était un bon débat pour ça parce que ça donne envie de voir la suite. On a été un peu déçus, il faut le dire quand même, de ce Tour de France qui était quasiment gagné d'avance. Oui, enfin bon, on va pas faire le débat, tu n'es pas là, mais.
Je ne suis pas déçu, mais chacun son avis.
Je t'ai déçu.
On s'y attendait quand même un peu.
Non, moi je n'étais pas déçu.
Non, il ne s'attendait pas du tout, il pensait que ça serait
quelqu'un d'autre. Non, mais c'était l'un des tours les plus difficiles de l'histoire. Ça a été l'un des plus rapides aussi.
Il y a eu
des
très belles étapes, je suis d'accord avec toi.
Il y a eu une vraie bataille.
Mais il n'y a pas eu une vraie bagarre entre
Vingegaard et...
Il y a eu des belles histoires avec Valentin Paré-Pin.
Là-dessus, oui. C'est plus sur le fait que Pogacar écrase un peu la course.
Jamais déçu du Tour de France.
Bon, on le sera encore moins avec peut-être Evenepoel l'année prochaine.
Quel mauvais vendeur.
Jamais déçu, excuse-moi.
Mais on est toujours passionnés, mais on a envie qu'il se passe des trucs un peu plus.
Pardon,
c'est ça qu'on a envie de dire. Bref, on revient dans un instant. Est-ce que ça vous déçoit d'ailleurs la F1? Non, c'est pas le débat. On va passer
la déçoit jamais la F1, il y a Lewis Hamilton. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te
plaît. Hamilton, je sais pas.
Ah ouais?
Il est où? Ah non, Ludo, m'attaque pas sur Hamilton. Là, ça va mal se finir.
Ça tombe bien. On va passer la seconde. On va aller dans un paquet de F1, mais celui de Max Verstappen. Désolé Marion, il a choisi de rester chez Red Bull. Encore une fois, décidément, on fait pas de la publicité. Est-ce qu'il a fait le bon choix? On sera avec Jean-Luc Roy, la voix de la F1 sur RMC. Ne manquez pas ça. C'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.